Mais ce matin, je voudrais justement être dans cette même réflexion, poursuivre la réflexion sur nos besoins. Quelque part, j'ai donné ce titre, cette question de être à la recherche du bonheur, nos besoins. Déjà, une première question, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie, de l'état actuel de votre vie? Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on est satisfait? Ou est-ce qu'on est encore en recherche de quelque chose? On attend peut-être encore quelque chose. On attend peut-être quelqu'un. On attend peut-être un événement. Les vacances, par exemple, pour certains, c'est une attente. On attend pour vraiment être bien. Ah, j'attends dans 15 jours les vacances. Peut-être qu'on attend une situation particulière, professionnelle, familiale, qu'elle se débloque. Là, on pourra dire, je serai vraiment bien. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on a des attentes, on a des désirs, on a des besoins. Et pour certains d'entre eux, de ces besoins, de ces attentes, on les attend comme légitimes, comme indispensables pour ce bonheur auquel on regarde, auquel on aspire, pour être vraiment heureux. Alors il y a cette question, hein, si seulement j'avais cela ou ceci, alors je serais heureux. Si seulement, qu'est-ce qu'on met derrière ? Si seulement j'étais déjà en vacances, ou encore en vacances. Si seulement j'avais fini mes études, pour ceux qui sont étudiants. Ou certains qui sont déjà passés depuis longtemps, auraient dit, si seulement j'avais persévéré dans mes études. Regret du passé. Si seulement je savais jouer du piano. Si seulement je pouvais. Si seulement je pouvais avoir ce dernier modèle de téléphone. Si seulement j'avais pas tous ces problèmes de santé, ça irait tellement mieux. Si seulement j'avais peut-être un peu plus d'argent à la fin du mois. Si seulement mon épouse, mes enfants pouvaient rencontrer le Seigneur, si seulement. Alors ce serait tellement bien, bien mieux. On est peut-être, vous êtes de ceux qui recherchent quelque chose et vous savez pas de quoi. Vous êtes tout le temps en train de rechercher, vous êtes insatisfait. Je pense qu'autant de personnes que nous sommes réunies ce matin, et même si on n'est pas nombreux, je pense qu'on a tous peut-être des attentes, des besoins, des si, si seulement. Mais on le sait aussi par expérience que combien de déceptions entourent cette attente, cette recherche du bonheur. Tout ce qui s'offre à nous, tout ce qui à un moment donné se débloque ou pas, ne tient jamais ses promesses. Il y a cette insatisfaction. Et dans la Bible, il y a même tout un livre qui parle de cela et je voudrais un peu le partager avec vous ce matin, en partie, une partie. Et son auteur nous y présente ses réflexions, c'est l'Ecclésiaste. Alors que bien des siècles nous séparent, je ne sais pas combien de siècles nous séparent de sa rédaction, mais bien, bien plusieurs dizaines de siècles, on trouve la pertinence de son écrit pour nous aujourd'hui dans nos réalités de vie quotidiennes qui sont loin de celles de son auteur. Alors je vous propose d'ouvrir nos Bibles, déjà en Ecclésiaste. Alors pour ceux qui ne savent pas, Ecclésiaste, c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. C'est facile. Pour ceux qui ont ces Bibles qui sont mises à disposition à l'arrière, et je vais lire dans cette traduction, c'est page 436. Donc voilà, c'est dans l'Ancien Testament. C'est au milieu, c'est pas loin du milieu en tout cas. Après les proverbes, après les psaumes. Un petit livre, Ecclésiaste, on va être au chapitre 1. On va prendre à partir du verset 12 à 18. Et vous allez voir la radicalité des propos dans ce que nous allons lire. Donc Ecclésiaste, à partir du chapitre 1, verset 12 à 18. Lisons la parole de Dieu. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. » C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissances. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi, cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Jusqu'ici. Alors c'est vrai, l'Ecclésiaste est à la poursuite du bonheur. Et dans ce premier paragraphe, on voit qu'il a la recherche par la connaissance, on pourrait le résumer, par la connaissance. L'auteur se présente comme roi d'Israël, probablement Salomon. Il a une certaine position, une certaine autorité, certaines richesses qui lui permettent d'avoir des moyens pour entreprendre cette recherche. Et on le voit, hein, il engage de façon volontaire, « j'ai appliqué mon cœur, j'ai exploré ». Cet homme était en recherche. Il examine, il sonde par la sagesse, par la connaissance. Il réfléchit à sa vie. C'est vrai, quel privilège nous avons en tant qu'hommes de ne pas être des robots. On a la capacité à raisonner, mes amis. Et c'est une capacité propre à l'être humain, verset 13, que Dieu réserve aux humains. C'est un cadeau quelque part reçu de Dieu de pouvoir réfléchir, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir peser, de pouvoir mesurer, de pouvoir réfléchir. On a cette aptitude à faire le point, à pouvoir regarder nos vies, à pouvoir les analyser, à pouvoir faire des bilans passés du présent et de pouvoir y envisager un avenir. On a cette capacité à raisonner, on a cette capacité à prendre des décisions. On a même cette capacité quelque part à agir sur le cours de nos vies. Mais l'Ecclésiaste nous dit, cela reste une occupation pénible, comme le dit ma traduction. C'est vrai, quand ça cogite, c'est pas toujours agréable, quand ça réfléchit, quand ça turbine là-haut. Certains ont du mal à s'endormir. Et ici, l'auteur, il a entrepris, concerne tout ce qui s'est fait sous le ciel. Waouh, il s'est donné les moyens, il s'est limité à rien. À tel point qu'il peut dire, peut-être d'une façon assez générale, mais j'ai tout vu. Tout ce qui se fait sous le soleil. Il a tout expérimenté, tout goûté, tout réfléchi. Et malgré cela, il dit, tout n'est que fumée. Tout que revient à poursuivre le vent. La traduction Sommer, tout est dérisoire. La fumée, le vent, ça nous échappe. On n'arrive pas à le maîtriser, on n'arrive pas à le maintenir. C'est quelque chose d'éphémère. Tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. C'est quelque part une des clés, un des refrains, si vous parcourez Ecclésiaste, qui va revenir. Et dès le premier verset du chapitre 1 qu'on n'a pas lu, mais « vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « vanité des vanités, tout est vanité ». Ma traduction dit « comble de l'inconsistance, comble de l'inconsistance, il n'y a rien qui tient, ce n'est que fumée ». L'auteur constate, même avec sa sagesse, avec sa capacité à raisonner, de dire que tout est vain, tout est dérisoire, rien n'a de consistance. Et pourtant, il a voulu connaître les choses. Sa connaissance, sa sagesse, ses réflexions ne lui ont pas donné satisfaction. Il en découvre ses limites. Et on le voit par exemple dans le verset 15. « Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. » Sa connaissance a des limites. Sa connaissance a des limites. Et c'est vrai que nous savons, que depuis que l'homme s'est lancé dans les recherches scientifiques, que de belles découvertes ont été faites. Ces dernières dizaines d'années, c'est extraordinaire. Les réponses que l'homme a pu avoir sur la compréhension du mécanisme de l'homme, par exemple, du mécanisme des plantes, beaucoup de choses ont été découvertes. Mais en même temps, plus on avance dans les découvertes, plus de nouvelles questions, interrogations sont soulevées. L'homme est capable d'envoyer un homme sur la Lune. On a fêté, il n'y a pas si longtemps, un anniversaire du premier pas sur la Lune, d'explorer une grande partie de l'espace. Et pourtant, c'est qu'une partie. On est capable de poser un robot sur un caillou à des milliers de kilomètres d'ici. Et pourtant, on ne connaît pas encore toutes les espèces vivantes de cette Terre. On ne connaît pas encore tous les mécanismes, la manière dont cette Terre se régule. Peut-être on est de ceux qui pensons qu'un jour, notre connaissance va nous aider à mieux connaître le vrai sens de la vie, à cette recherche du bonheur. Plusieurs imaginent que l'instruction est importante pour mieux vivre, pour avoir une vie qui s'annonce meilleure. « Mon fils, fais de grandes études, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Je te suggère parce que j'ai vécu. Fais des études, ça va aller mieux. » Peut-être on est de ceux, il faut augmenter nos connaissances sur Dieu pour que notre vie soit plus apaisée. Mais est-ce le cas? On est peut-être de ceux qui ont le conseil facile. Vous savez, il y a toujours des personnes face à une situation compliquée, face à vos problèmes de vie, justement à cette recherche du bonheur, qui vont avoir réponse à tout. « Si tu fais ça, tu verras, ça ira beaucoup mieux. » Qui n'a pas un jour reçu ces conseils? Peut-être maladroit parfois. Mais l'expérience nous dit que la vie est bien plus complexe que ça, et c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Au contraire, l'Ecclésiaste dira, on a beaucoup de chagrin et on augmente sa souffrance. Vanité, fumée. Poursuivons, Ecclésiaste 2, les 10 premiers versets. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle ? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières, j'ai acheté des serviteurs et des servantes, j'en ai eu d'autres, nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent, de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Jusqu'ici, pour l'instant. On voit d'une part qu'il a recherché par la connaissance, ça l'a mené à une impasse. Et là, on voit qu'il y a deux types de recherches. Une première, ma recherche par le plaisir. Il a dit, le bonheur, c'est l'épanouissement, par le plaisir. Et d'une part, on le voit avec le rire, versets 1 et 2. S'il y a du plaisir, s'il y a du bonheur, ça doit passer par la joie, le rire, l'humour, les blagues. Ça reste en France, d'ailleurs, l'humour, une des sorties préférées des Français. On aime voir des films qui nous font rire, qui nous font évader. On aime voir des one-man shows, comme on dit, des sketchs sur la réalité de la vie qui nous font rire. On peut même lire des études qui attestent que le rire est excellent pour la santé. Il y a même des clubs de rire, avec des exercices bien sûr. Et il y a des bienfaits au rire. On dit cela, et les études le démontrent, antidote au stress. Baisse de l'anxiété, des états dépressifs, renforcement même du système immunitaire, réduction de la tension artérielle, des problèmes cardiaques, etc. Accroissement de la confiance en soi, une vision plus positive des choses, développement des relations, puisque parfois le rire est communicatif. Essaye la joie, nous dit le psalmiste, et tu goûteras au bonheur, verset 1. Mais l'auteur, sans développer, nous dit que le bonheur non plus n'est pas lié à la joie, au rire. Cela aussi, c'était de la fumée. C'est vrai, on peut avoir des bons temps, on peut bien rigoler. Mais ça aussi, de façon radicale, on le sait, ça peut s'arrêter, c'est de la fumée. Une belle soirée, et puis le lendemain, tout se sera envolé. Une bonne après-midi de rigolade, et le lendemain, les difficultés de la vie. Le rire ne peut pas remplir le vide de nos cœurs. La joie et le rire peuvent même cacher des cœurs en souffrance. Ça peut être une façade. Alors il a fait quoi ? Il a fait le vin. Avec le vin, mais avec modération, vous avez vu, avec sagesse. C'est un plaisir d'apprécier le bon vin et la Bible en parle de façon extraordinaire. Cette illustration, elle est très présente pour parler de la fête, de la joie. Si vous allez au resto, un grand menu, c'est accompagné d'un bon vin et pas n'importe quel. Tout comme une bonne fête, il doit y avoir du vin, des bons jus. On est une des nations les plus consommatrices de vin. Et selon un sondage IFOP que j'ai lu, le vin se situe entre une source de bien-être et une valeur refuge, financière d'ailleurs. Les Français voient le vin comme un symbole de convivialité pour 91% des gens, d'authenticité, 87% de partage. Il y a le synonyme de bien vivre ensemble. 58% des Français considèrent que le vin contribue à les rendre heureux, à se détendre, à être moins stressés. Mais pour autant, les Français ne sont pas reconnus pour être les plus heureux. La boisson ne tait pas l'angoisse de la vie. Je me rappelle, chez les jeunes, celui qui ne boit pas, il n'est pas bien vu. C'est un loser, comme on disait à mon époque. Pour être normal, il faut boire comme un divertissement. Mais rapidement, même avec la boisson, il y a le déchantement, le retour à la réalité. L'attente, je me rappelle de mes camarades de classe, l'attente impatiente du prochain week-end où on pourra faire la fête. Entre, il fallait vite le passer. Et il recherche avec la sensualité, vous l'avez vu. L'auteur ne s'est privé d'aucun divertissement, ni d'aucune femme. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. Ça, c'est aussi très actuel. Notre société nous fait croire que le bonheur, c'est l'épanouissement personnel, dans la sexualité, dans la convoitise, dans la liberté, qui s'ouvre avec les sens. L'épanouissement personnel, l'épanouissement sexuel n'a de cesse à prendre une place croissante dans notre société occidentale, pour le bonheur de l'individu. Il suffit de regarder comment les clips musicaux sont tournés, comment une pub sont tournées. Ça attise nos sens, ça attire notre sensualité. Pour être heureux, vous lisez beaucoup d'articles, il faut pimenter sa vie de sensations, sa vie sexuelle, plus en plus, de moins en moins de limites. Et quand je suis plus satisfait, je change. J'ai cette liberté de changer. Le désir, la volupté, le sentiment de plaire, le besoin de reconnaissance, l'estime de soi, c'est toutes des choses qu'on retrouve dans ce sens-là. Est-ce que c'est là-dedans qu'on retrouve le bonheur, la satisfaction durable? Eh bien non. On voit un deuxième groupe, c'est la recherche par la réalisation de soi. Je me suis lancé dans de grandes entreprises, versets 4 à 8. Je me suis construit des maisons, je me suis implanté des vignes. L'auteur s'est lancé dans de vastes programmes, des projets de travaux. Il ne regarde pas la dépense. Quel prestige d'avoir de nombreux biens, des personnes à son service, une richesse qui s'étale à la vue de tous et qui dépasse ceux qui l'entourent. Pour le coup, on peut se dire, ça c'est un homme qui s'est réalisé, c'est un homme qui s'est accompli. Il a réussi dans les affaires. C'est vrai, on aime que les autres nous voient comme des hommes, des femmes, des familles qui ont réussi. Avoir du succès, avoir plein de trucs, réaliser plein de trucs. Vous avez déjà remarqué comme les gens qui ont fait plein de voyages attirent du monde. Les gens qui ont plein de moyens attirent du monde. Pouvoir acheter des biens, pouvoir atteindre un statut social supérieur. Mon fils, je t'encourage à faire des études parce que tu vas un peu moins galérer que moi. Mais pour autant, est-ce que ça alimente notre bonheur? Cela le facilite peut-être, mais des revenus parfois supplémentaires s'accompagnent de moins de temps libre. Plus de responsabilités dans une boîte, c'est peut-être plus de stress, plus de fatigue. Une compétition sociale entre cadres, des relations sociales qui sont dégradées. Quand on regarde les plus riches, regardez leur famille. Je ne sais pas si ça donne envie. La richesse n'est pas une source d'épanouissement. La réalisation non plus. Je reviens aux Français, parce qu'on est Français, enfin pour la plupart, hein, même si on a des racines étrangères, mais on est Français, enfin on vit en France. Le Français, il est fan de bricolage aussi, de vin, de rire, mais de bricolage aussi. C'est un des premiers postes de dépenses des familles. 24 milliards d'euros de budget annuel. Ça fait 800 euros par an à peu près par foyer. Les allées de magasins de bricolage, alors c'est vrai ces derniers temps un peu moins, mais sont bien fréquentées. En temps de crise, les consommateurs, et c'est véridique, les consommateurs en temps de crise aiment se réfugier où ? Chez soi, dans leur intérieur. Ils se concentrent sur leur aménagement, de leur chez soi. Posséder une maison, posséder un appartement ou un autre bien, pour qui c'est pas un rêve, parfois un but ? Récemment, je me suis fait la réflexion, j'ai tous mes frangins qui sont plus jeunes que moi et frangines, ils ont tous une maison. Un appart. J'ai dit, moi, grand frère. Mais est-ce que c'est ça? C'est ça mon rêve? Une maison, un appart? On est peut-être de ceux qui aiment faire du shopping quand ça va pas, pour se détendre, pour oublier ses soucis du quotidien. On va s'acheter telle chaussure pendant quelques instants, on aura oublié les difficultés du quotidien, on oubliera la monotonie de la vie. Mais souvent, on est frustré d'avoir pas pu acheter une deuxième paire. On aimerait tous avoir plus, gagner plus, posséder plus. Et la France ne joue pas pour rien au jeu de hasard. Dans l'idée d'un avenir meilleur, d'un bonheur plus grand, de gagner plus pour consommer plus, c'est la logique de notre monde. Comme l'Ecclésiaste, là aussi, pas le bonheur. Et on a aussi tous fait l'expérience. On s'est dit, si j'ai ce truc, ah, ce sera bien. Mais on a eu ce truc, ça nous a duré un certain temps. Puis après, on doit viser autre chose. Et on est des hommes, on a des projets, on a des... Mais là aussi, le bonheur est éphémère et nous glisse bien souvent entre les doigts. Ni la course au travail, ni la course à une carrière, ni à la course aux activités, ni la consommation ne répondent aux besoins de nos cœurs et de notre homme, de l'homme, et du bonheur. Et le désespoir nous guette lorsque nous ne trouvons pas ce que nous cherchons dans cette course sans fin. Alors poursuivons encore la suite. Versets 11 à 23, long passage. Puis j'ai réfléchi, la connaissance, à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait? J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui ? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès les jours suivants, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide ? Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou ? Pourtant, il sera maître de tout mon travail et de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. J'en suis venu à désespérer, à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès. Et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne se donnait aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée. Et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil ? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. Alors là, l'Ecclésiaste, il nous fait un peu un bilan. Un bilan. Le bilan de sa recherche. Il détaille un peu plus. Et d'une part, on voit qu'il n'y a aucun avantage. L'auteur nous apporte l'aboutissement de sa réflexion. Il y a de la joie, oui, mais en face de toute cette peine, de tout ce qu'il a entrepris, que tout ce que ses mains ont fait, l'effort que ça lui a coûté n'ont rien changé au résultat. Le bénéfice est à nouveau futile, éphémère, ça lui échappe. Il n'y a aucun avantage, aucun plaisir qui soit durable, ça glisse. Vanité des vanités, vent, fumée. Jamais achevé, toujours perdant. On voit aussi que ça reste éphémère. Versets 12 à 16. Vaut-il mieux être sage ou fou ? La vie prudente et avisée a-t-elle un avantage sur celui qui s'est conduit sans réfléchir à tout cela ? C'est vrai, il reconnaît que la sagesse, une vie sage, a des avantages sur une vie qui est moins sage. Mais les deux vont néanmoins mourir. L'auteur reconnaît que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. L'un et l'autre aboutissent à la mort. La mort n'épargne aucun. Si l'issue est la même, on est tous enterrés sous pied sous terre, enfin dans une caisse où on est en crémation. Mais pourquoi vivre ainsi si l'issue est la même ? Et c'est vrai que la perspective de la mort ôte à la vie. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Et à l'activité humaine, quelque part, une grande partie de son sens. Ça s'échappe. C'est que du vent. Que l'homme soit sage ou qu'il soit fou, notre nom est rapidement oublié. Alors c'est vrai, il y a des noms qui ont marqué l'histoire. Mais combien de temps on s'en souvient ? Parfois, il y a des grands noms et on est obligé d'aller, aujourd'hui on a le privilège d'aller sur Wikipédia. Alors c'est une grande base de données où, au fur et à mesure, on met des noms, des grands noms célèbres, et on raconte en quelques lignes sa vie, quelques lignes. C'est pas plus durable sans souvenir. Tout aussi grand que l'on soit, on sera oublié. Ça nous échappe. C'est encore un autre constat, versets 17 à 23. Et l'auteur est irrité. C'est pas normal de s'être comporté en sage et de finir de la même façon que le fou. Il se dit alors détester la vie. De voir que tout ce qui se fait sous le soleil ne soit que fumée et revient à poursuivre le vent. Il est lucide sur sa succession. Sa réussite, sa prospérité, ce qu'il a accumulé reviendra peut-être à quelqu'un qui lui succédera. Le produit de son travail revient à un homme qui ne s'est pas donné la peine. Parfois on travaille, on se dit « je travaille pour mes enfants ». Je me rappelle, pour illustrer cela, dans ma vie d'avant, enfin dans ma vie il n'y a pas si longtemps, dans mon travail d'architecte, j'ai réalisé une crèche du début jusqu'à la fin. Une crèche toute neuve pour une commune. J'ai eu le privilège de réfléchir à sa conception, de choisir les matériaux, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier coup de balayage où tout était neuf, prêt à donner les clés. Plus de 3 ans de travail, de sueur, de réunions difficiles pour clore le budget, de prise de tête avec les entreprises, de recherche de solutions techniques pour faciliter les choses. Et voilà maintenant le temps de remettre les clés au futur propriétaire. Et quelque part, je me rappelle clairement, c'était un de mes premiers chantiers, la rupture de donner mes clés à ces animatrices, à ces éducateurs, à ces encadrants d'enfants qui allaient prendre en main ce bâtiment qui était nickel. Et moi, j'avais plus le droit de rentrer, de regarder. J'ai dû passer quelques semaines après pour quelques problèmes. Bien sûr, il y a toujours des problèmes sur le bâtiment. Mais quand tu vois les posters, les trucs qu'ils ont accrochés. J'ai pas pu profiter du fruit de mon travail, quelque part. Et je trouve ça illustre. J'étais frustré. Je pouvais plus entrer comme avant. Et ce que j'avais fait, le fruit de mon travail revient à quelqu'un d'autre. Et vous, dans quoi avez-vous investi votre temps ces dernières années? Sur votre lieu de travail? Pour ceux qui sont à la retraite, ils savent que c'est derrière, c'est oublié. On oublie tous les prises de tête compliquées. J'ai bossé toute ma vie pour arriver à ce stade dans ma carrière. On en connaît des gens qui, à peine à la retraite, n'ont jamais profité de leur retraite. Ils attendaient, ils parlaient tout au long de leur vie vivement la retraite. Vous êtes peut-être investi dans l'éducation de vos enfants. J'ai travaillé comme jamais pour donner à ma fille une belle situation. Et voilà comment elle me traite aujourd'hui. Combien de familles sont comme ça? On est peut-être de ceux qui ont investi des années dans une relation, dans une amitié. Et aujourd'hui, elle est où? Cette amitié, elle est cassée. Quand on réfléchit dans beaucoup de choses qu'on peut investir, ça a ses limites. C'est du vent. Alors, quelle solution pour la vie? À la recherche de notre bonheur. Si tout arrive à un moment ou à un autre à être quelque part comme de la fumée, comme du vent. Heureusement, l'Ecclésiaste ne nous laisse pas juste avec ce constat. Et il va terminer cette section par une autre observation, une première clé de son passage. Et c'est quelque part comme une bouffée d'air, d'oxygène. Prenons le passage à partir du verset 24 à verset 26, et je l'affiche. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu par moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais au pécheur, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Alors, on va regarder surtout les versets 24 à 25. Et on voit que c'est une des clés. C'est court. Mais on voit que la vie se savoure quoi? Dans l'instant présent, comme un don de Dieu. Le seul bonheur. Et il dépend de Dieu. La satisfaction du présent comme un don de Dieu. On le retrouve par exemple plus loin dans le chapitre 3, versets 12 à 13, vous n'avez pas besoin de le prendre. « J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Voilà la réponse que nous donne l'Ecclésiaste. Le bonheur n'est pas dans des éléments extraordinaires comme beaucoup de biens, de consommer du bon vin, d'avoir de beaux vêtements, d'avoir de la réussite. Mais la clé de bien vivre, un sens à sa vie, se trouve dans un quotidien de fait de choses simples. Vous avez vu? Manger, boire et travailler. Des petits bonheurs qui se savourent comme des dons de Dieu. De l'instant présent, comme des cadeaux. Et c'est vrai qu'il faut apprendre, et on a besoin d'apprendre, à savourer les joies simples de la vie d'aujourd'hui, que Dieu nous offre aujourd'hui du moment présent. Et ce bonheur, nous sommes invités à les saisir, car c'est Dieu qui les accorde aux hommes. Soyons donc, et là c'est un peu un encouragement, soyons donc conscients des belles... Prenons le temps, oui, de nous arrêter, de nous dire qu'est-ce que sont les belles choses que j'ai aujourd'hui, dont on a là de la joie aujourd'hui, que Dieu nous permet de voir aujourd'hui. Si Dieu nous permet de vivre des moments aussi insignifiants que manger et boire, sachons les saisir et reconnaître que c'est des dons de Dieu, que c'est une faveur de Dieu à notre égard. Et là, c'est tout le domaine et tout le registre de la reconnaissance. La source du bonheur, mes amis, comme le conclut quelque part l'Ecclésiaste, c'est de pouvoir se réjouir de ces dons que Dieu nous donne aujourd'hui. Petite illustration, peut-être que je l'ai déjà partagée, je ne sais plus. Alors, moi, j'aime beaucoup les petits déjeuners, et particulièrement une belle tartine, pain frais. Alors, baguette ou pain, c'est égal, mais du beurre et une confiture rouge, s'il vous plaît. Rouge. Alors après, ça peut être groseille, cerise, fraise, enfin voilà, mais rouge. Et bien sûr, un café. Préférence framboise, mais voilà. Mais c'est un vrai régal. Un vrai régal pour chaque bouffée. Alors si je commence ma journée comme ça et que je dis merci Seigneur, je peux dire que la journée, souvent, elle commence sous une belle tonalité. Mais si je commence mon petit déjeuner avec cette même tartine, avec une autre perspective, avec un autre attachement, en rouspétant peut-être parce que mes enfants font du bruit, ou parce que peut-être mon épouse ne m'a pas encore rejoint et je le prends tout seul, mon café et ma tartine, ou parce qu'il pleut dehors, vous pouvez être sûr que la journée, elle démarrera différemment. Est-ce qu'on est capable de voir des petits détails, de se dire, bah, je suis reconnaissant? Ou est-ce qu'on voit des choses qui nous manquent, qui peut-être, c'est vrai, augmenteraient peut-être notre bonheur, enfin c'est supposition, parce que peut-être notre femme, elle, votre épouse ou votre conjoint est à côté de vous, et c'est peut-être pas le jour, faudrait parler. Que savons-nous? Dans la situation où tu te trouves aujourd'hui, sois satisfait. Savoure le présent tel qu'il est, dans la dépendance de Dieu, dans le regard sur Dieu. Pourquoi s'inquiéter de demain? Pourquoi chercher dans tout à l'heure, dans telle situation, dans telle chose, dans tel événement qui pourrait t'épanouir davantage? Pourquoi faire quantité de projets dont dépend un bonheur éphémère et remplacer quelque part Dieu et remplacer ton bonheur qui aujourd'hui est présent, mais tu ne le vois pas? Et en fait, on voit que c'est Dieu qui permet cette satisfaction, de reconnaître le manger et le boire. En effet, verset 25, hein, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? En dehors de Dieu. Le sens de la vie se trouve dans le don de Dieu, dans le cadeau de Dieu. Le bonheur dépend de Dieu. Dieu nous permet, Dieu veut nous permettre d'avoir de la joie dans de petites choses, même primaires, parce que c'est un don qu'il nous a fait. Je voudrais conclure. Alors c'est vrai, ce matin, on est au bénéfice de cette réflexion de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, hein, il faut une demi-heure pour le lire. Prenons le temps d'écouter ce que Dieu nous dit sur cette recherche du bonheur. Parfois, c'est écouter un parent, un aîné, qui est déjà passé par les expériences que nous sommes en train de vivre. Ce texte nous montre qu'il est important de réfléchir à nos rêves, à nos ambitions. À quoi rêvons-nous? À quoi attendons-nous? À quoi aspirons-nous? Est-ce qu'ils font naître en nous de la frustration? C'est vrai, on nourrit peut-être des aspirations légitimes, mais qui nous font passer à côté des cadeaux du présent, des dons du présent que Dieu nous donne. Est-ce qu'on a des aspirations quelque part qui nous remplacent Dieu? Si seulement j'avais ceci, si seulement je vivais cela, alors ma vie serait bien. Je saurais que je vaux quelque chose. Je saurais que ma vie a un sens. Je me sentirais important. Je me sentirais rassuré, en sécurité, en paix. Est-ce que c'est la bonne cible? Si seulement. Ce qui me frappe dans le texte, hein, vous l'avez peut-être aussi remarqué, c'est ça, cette recherche, mon plaisir. C'est le côté égo. Je suis le centre de son discours. Je dois m'épanouir. Et on voit que c'est l'échec de sa démarche tout au long. Du vent, de la frustration, de la fumée, ça lui échappe. Alors que notre joie, notre épanouissement réel dépend de Dieu. La vraie identité se trouve en Dieu. La vraie sécurité se trouve en Dieu. Le vrai repos se trouve en Dieu. La vraie joie se trouve en Dieu. Tout ce que je dois faire, je dois le faire pour Dieu et pas pour moi. D'ailleurs, un texte qui rappelle un peu, que j'affectionne beaucoup, hein, Corinthiens 10, 31. Ainsi donc que vous mangez, que vous buviez, les mêmes éléments, que vous fassiez tout pour qui? Pour la gloire de Dieu. C'est pas pour vous, mais faites pour Dieu. Pour lui plaire, lui, et non pas pour me satisfaire. Mais le don de Dieu, nous le savons, dont nous parle le reste de la Bible, c'est le vrai sens de la vie, c'est le don de Dieu ultime, c'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Réaliser que Jésus a fait tout ce dont on a besoin. D'ailleurs, quand on regarde sa vie, toute sa vie était tournée vers les autres, jusque dans sa mort. Son investissement, c'était les autres. Je voudrais simplement lire un passage qu'on connaît, hein, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine, qui dit qu'il est le pain de vie. Je voudrais simplement prendre Jean 4, et ça fait écho à cette réflexion de l'Ecclésiaste, verset 10. « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il te l'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où es-tu donc cette eau vive ? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même ? ses fils et ses troupeaux, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. » Vanité des vanités. « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir ici pour puiser. » Là, c'est l'écho. Jésus est cette source d'eau. Jésus est ce dont on a besoin. La recherche du bonheur est en Jésus-Christ, mes amis. Voilà le don de Dieu dont il est question. Jésus était riche, mais il est devenu pauvre. Jésus était roi, mais il s'est abaissé. Il était grand, mais il s'est fait serviteur. Il a triomphé du péché, non pas en s'emparant du pouvoir, mais en servant. Il a gagné en perdant tout. Et quelque part, comprendre ce don de Dieu, cette grâce, mais tout le sens de la vie, notre recherche de satisfaction, trouve du sens. Je suis aimé, je suis accepté tel que je suis, où ? En Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est dans ma vie, je possède tout. Je possède la richesse, la santé, l'amour, l'honneur, la sécurité dont j'ai vraiment besoin et que je ne peux pas perdre. Éternité, hein, Jésus nous a dit ici. L'Ecclésiaste, il était éphémère. La mort, poum. Non, il y a l'éternité. C'est ça la grâce. Tout ce qu'il donne, il le fait par grâce. La grâce du Seigneur, c'est sa générosité. Alors que nous puissions aujourd'hui nous arrêter et nous dire merci Seigneur pour les petits dons que Dieu nous donne. De reconnaître que ces petits dons que j'ai, je les dois à Dieu et c'est que pure grâce. Que le pardon, tout à l'heure on va partager la scène, le repas du Seigneur, le souvenir de ce qu'il a fait, c'est qu'un don pour nous. Qu'aujourd'hui en vous couchant ce soir, vous puissiez dire comme on le fait en ce moment avec grâce, c'était quoi tes moments chouettes de la journée? Les cadeaux que le Seigneur nous a donnés, qui dépendent de sa grâce. Des petits cadeaux, une tartine de confiture. Que le Seigneur nous accorde la joie de voir les cadeaux qu'il nous accorde. Alors la recherche du bonheur aura tout un sens.